Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Radio Présence dans l'émission des jeux vidéo. Nous sommes en direct du lycée Saint-Pierre à Tarbes où nous allons aborder le sujet des jeux vidéo avec toute la classe de seconde SNA. Pour aborder le sujet, nous aurons Madame Aline Gauthier, infirmière auprès de l'ACED et professeure de classe prépa médico-sociale qui nous présentera le point de vue médical. Bonjour et bienvenue. Sera avec nous aussi Monsieur Fombon, capitaine de la Ligue d'e-sport sur League of Legends, ainsi que son collègue d'équipe, Monsieur Jérôme Rodriguez. Bienvenue et merci d'être là.
Bonjour à vous.
Notre dernier invité, ce sera Michel Gallet, responsable du supérieur du lycée Saint-Pierre. Merci à vous d'être là aussi.
Bonsoir à tous.
Le thème des jeux vidéo a été choisi par l'ensemble de la classe car c'est l'un des premiers sujets de discussion dans les cours de récréation et que plus de 95% de la classe passe leur temps libre sur les jeux vidéo. Pourquoi les jeux vidéo sont-ils si importants dans nos vies? Nous allons aborder ce sujet avec nos invités et certains de mes camarades. Avant vraiment de commencer l'émission, je vais donner quelques chiffres sur les jeux vidéo. Donc pour commencer, les jeux vidéo ont récolté plus de 4,3 milliards d'euros juste en France en 2018, ce qui est quand même énorme, ainsi que 46% des Français de plus de 55 ans ont déclaré jouer aux jeux vidéo. Est-ce que ça vous impressionne ça?
Moi, je suis impressionné déjà par l'argent récupéré. C'est quelque chose. Après, l'âge, c'est combien que
55 ans.
Ouais. C'est-à-dire que la moitié des...
46%.
Oui, la moitié, quoi, à peu près.
Ouais, à peu près, ouais.
Donc je suis au-dessus de 55 ans, donc je suis un bon exemple que je ne joue pas.
Okay. Et notre dernier chiffre, c'est aussi que 95% des 10-14 ans ont affirmé être des joueurs de jeux vidéo en France. Suite à ça, je vais donner la parole à Rémi qui va nous présenter des typologies de jeux vidéo.
Bonsoir, merci Romain. Voici donc une typologie des jeux vidéo. Utilisés à titre éducatif depuis les années 1970, les jeux vidéo touchent un public vaste varié. Les jeux ludo-éducatifs désignent les applications utilisant l'aspect ludique pour permettre l'assimilation d'informations. Il y a une grande diversité des jeux vidéo à partir des années 1990. Les jeux d'action, ce sont des jeux de combat, de tir. Ces jeux font appel à l'habileté, la dextérité et la rapidité du joueur. Les jeux d'aventure, aventure, fiction et simulation, ces jeux font appel à la résolution d'énigmes, au dialogue, à une exploration minutieuse de l'environnement. Les jeux d'action, aventure. Ces jeux combinent l'exploration, le combat, l'investigation et la résolution des problèmes. Les jeux de rôle, le joueur s'identifie à un personnage qui évolue dans un environnement dans lequel il y a une mission. Les jeux de réflexion, ces jeux sont essentiellement les jeux de labyrinthe, les jeux d'objets cachés, les puzzles. Les joueurs sont invités à réfléchir afin de libérer un passage, ouvrir une porte ou résoudre un problème. Les jeux de simulation, ce type de jeu propose aux joueurs de simuler virtuellement un événement. Il peut s'agir de gérer une économie, piloter un avion ou encore conduire un véhicule de combat. Les jeux de stratégie, ces jeux font souvent référence aux jeux de guerre traditionnels. Ils font appel à la réflexion du joueur et sa capacité à faire les bons choix. Pour les personnes qui jouent aux jeux vidéo, certaines se tournent vers certains types de jeux vidéo comme par exemple les RPG, Roleplay Game, qui sont des jeux essayant de représenter la vie réelle avec des intelligences artificielles, contrairement aux MMORPG, Massively Multiplayer Online Roleplay Game, qui eux sont avec d'autres joueurs qui proviennent du monde entier. À la lumière de tout cela, je laisse maintenant Dylan vous poser la première question, chers invités.
Qu'est-ce que les jeux vidéo pour vous?
Je vais commencer du coup. Donc les jeux vidéo, avant tout, pour nous, c'est vraiment une passion, c'est-à-dire que... dès qu'on rentre le soir, dès qu'on n'a plus cours, dès qu'on n'a plus à travailler, on va vraiment jouer aux jeux vidéo parce que c'est un exutoire en soi. C'est à la fin des études, quand on n'a plus à travailler, on cherche vraiment un moyen de se détendre autre que la lecture ou d'autres moyens plus désuets, pardon, pour les lecteurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de, en même temps, nous stimuler car il y a des récompenses à la fin, que ce soit... des victoires ou un petit peu plus de prestige sur l'internet. Du coup, oui, c'est vraiment pour ça qu'on joue. C'est vraiment, à mon avis, une recherche de reconnaissance en dehors des cours et en dehors des autres moyens de reconnaissance sociale comme le sport, etc.
D'accord. Et pourquoi joue-t-on ?
Donc, comme je l'ai déjà dit, oui, on joue surtout pour se détendre, pour s'amuser. Et on joue pour essayer d'obtenir, oui, une reconnaissance. On va chercher à battre dans certains types de jeux, notamment vu que je suis capitaine d'une équipe de League of Legends. Nous, notre but, ça va vraiment être de jouer en équipe pour essayer de montrer à toutes les autres équipes qu'on va affronter qu'on est meilleur qu'eux. Donc, on va essayer de vraiment de montrer à nos adversaires qu'on est les meilleurs. Donc, on joue pour booster notre estime de nous-mêmes et en même temps pour se détendre. C'est vraiment les deux facteurs principaux.
Est-ce qu'on fait une remarque par rapport à ce que tu as dit, peut-être ? Moi, comme ça, je suis responsable d'étudiants. En termes de détente, certains étudiants, pour moi, ne sont pas détendus, liés à ces sports ou ces jeux. C'est à la limite au contraire. J'ai l'impression, pour certains, bien sûr, ça dépend de la quantité d'heures qu'ils passent dessus, mais je vois certains étudiants qui ne sont, pour moi, ce n'est pas de la détente. Parce que je les vois le lendemain matin, ils ne sont pas détendus. Au contraire, ils sont très fatigués, sur les nerfs. Peut-être que Mme Gauthier, l'infirmière, va pouvoir en parler, mais moi, j'ai ce ressenti-là. Peut-être Mme Gauthier.
Je rejoins totalement M. Gallet parce que, en fait, nous, les élèves qui arrivent, ils ne sont pas détendus. En général, ils sont plutôt énervés. Certains, voire limite agressifs. Après, ça dépend peut-être du nombre d'heures qu'ils passent devant leurs jeux vidéo. Et puis voilà, quoi. Mais après, la plupart, ils ne sont pas détendus. On est bien d'accord avec ça.
Donc, à mon avis, vu que j'ai parlé effectivement du côté détente et du côté boost d'estime de soi-même, je pense que si jamais ce côté estime de soi-même n'est pas atteint, justement, l'élève va plus effectivement s'énerver qu'autre chose, vu qu'il n'aura pas atteint le but premier dans son jeu. Mais là, du coup, je pense que c'est plus un problème du choix du jeu plutôt que, effectivement, des jeux en général.
Je ne disais pas en général, moi. Hein. Je ciblais certains cas particuliers. Dernièrement, il y a des étudiants qui ont fait un tournoi à FIFA. Bon, c'est un vieux jeu, certainement, pour vous, hein, mais bon, je suis resté à ce niveau-là, un petit peu. À la salle des fêtes d'Odos, donc il y avait une cinquantaine de participants. Pour moi, c'était convivial. Pour moi, il n'y avait pas de souci. C'était pas dans son coin, le soir, jusqu'à 3h du matin, etc. Tu vois, l'état d'esprit, pour moi, c'était un jeu tout à fait normal. Ils auraient pu faire du foot dehors aussi, mais voilà, c'était une compétition, comme tu l'as dit. Ils prenaient leur pied, entre guillemets, se faisaient plaisir. Pour moi, c'est pas un souci.
Donc, j'ai une question pour donc vous deux, Jérôme et Richard. J'aimerais savoir, pour vous, quelles sont les capacités qu'il faut pour être vraiment un bon joueur ?
Donc, à mon avis, pour être un bon joueur, c'est avant tout du mental. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir des... parce que si jamais on perd trop rapidement son sang-froid, on va perdre aussi toutes nos connaissances du jeu qu'il y a derrière, tous nos réflexes, vraiment toute notre capacité à réfléchir sur l'instant présent. Donc ça va amener de mauvaises décisions qui vont mener à la défaite, forcément. Donc le mental, c'est vraiment un point très important. Après, du coup, effectivement, il y a la connaissance du jeu, car si jamais on ne connaît pas le jeu auquel on joue, si jamais on n'a aucune notion de comment gagner ou comment prendre du plaisir dans certains cas, effectivement, ça ne sera pas du tout intéressant. On va perdre. Et enfin, il y a aussi, pour les jeux d'action et pour d'autres types de jeux, donc League of Legends, il y en a besoin, c'est tout ce qui est réflexe, précision, agilité, qui forcément, vu qu'on utilise une souris, il y a forcément besoin de précision. Et vu qu'il y a des sorts à lancer, je ne sais pas, pour les joueurs de League of Legends, il y a des sorts à lancer dans une bonne séquence, dans un bon ordre. Il faut effectivement prendre connaissance de tout ça et réussir à les lancer, à les exécuter parfaitement.
J'ai fait un lapsus tout à l'heure, sport et jeu. Vous, est-ce que ce n'est pas plus sport que jeu, finalement ? C'est sport d'équipe, compétition, ça se rapproche beaucoup du sport, finalement.
Au niveau sport, en fait, c'est quasiment pareil. Le seul truc, c'est que du coup, ça demande un effort physique légèrement moindre, parce que ça va surtout un effort cognitif, et l'effort physique va surtout venir des mains et des doigts. Très rarement des jambes ou du reste du corps. Donc du coup, sinon au niveau humain du sport, ça va être sensiblement pareil, vu que ça va être de l'agilité dans l'exécution des mouvements, ça va être de la communication, ça va être de l'intelligence de jeu, de la réflexion, et surtout comme il l'a dit, quelque chose de très important, notamment dans League of Legends, qui pour moi est un jeu qui demande le plus de sang-froid au monde, c'est vraiment le fait de rester calme en toutes circonstances et de savoir réagir.
Donc, ce que tu me dis me prolonge ma réflexion. Est-ce que pour être un bon joueur, on n'a pas besoin de faire un entraînement à la limite d'un sportif ? Peut-être un entraînement physique pour être un bon sport, pour tenir le coup d'abord, parce que c'est une tension quand même, certainement, j'imagine, une tension nerveuse. Est-ce qu'on ne doit pas passer par un entraînement physique avant d'aborder la compétition ?
Alors, merci énormément de poser cette question parce que j'ai justement la réponse. Il y a beaucoup d'équipes professionnelles donc, sur beaucoup de jeux qui sont dans des structures. On peut citer Fnatic, G2, SKT, KT Rollster pour League of Legends notamment, qui suivent des entraînements intensifs au niveau du jeu, mais aussi au niveau physique, parce qu'ils sont suivis par des médecins. Pour gérer le stress, la nervosité du jeu, mais pour aussi garder une bonne condition physique parce que on a trop souvent l'habitude de dire que les gamers sont des gens peu hygiéniques et souvent mal alimentés, ce qui est pour la plupart vrai, mais du coup pour les sportifs les e-sportifs de haut niveau, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie est nécessaire pour avoir des meilleures dispositions physiques pour chaque partie et chaque compétition.
D'accord, merci du coup pour vos réponses. Maintenant, je vais passer la parole à David qui va nous parler de son expérience de jouer, d'être un gamer.
Bonsoir, pour expliquer mon expérience de gamer, je vais reprendre ma présentation postée en ligne sur ma Twitter et Discord. Donc je m'appelle David, j'ai 17 ans, mon pseudo est Nemesis, je joue à Fortnite depuis la saison 5, je suis spécialisé dans le build, la construction est une spécialité de Fortnite. J'ai appris les différentes techniques de build, que ce soit les 90, les chapeaux ou même les spécial sleazy. Les 90 sont une technique pour reprendre la hauteur, les chapeaux permettent de bloquer un adversaire, et les sleazy est une technique inventée par un streamer, un dérivé de 90. Depuis peu, je développe mes propres techniques de build pour rendre mon gameplay un peu plus fluide. Un gameplay est une jouabilité, c'est mon jeu. J'ai élaboré deux techniques. Mes compétences in-game, donc en partie, je m'adapte assez vite au type de jeu de mes coéquipiers, s'ils jouent agressif ou s'ils jouent le top. Mon niveau de build est plus que correct, ainsi que ma visée et mes modifications. Je me suis entraîné des heures pour les perfectionner et maintenant je les maîtrise. Niveau expérience, je participe régulièrement, que ce soit en solo, duo ou en équipe, à des parties personnalisées, snipe, scrim ou tournoi. J'ai beaucoup d'expérience en scrim car j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec plusieurs teams e-sport, que ce soit les Torque e-sport, Enoxia ou même quelques membres de la G4B comme Series ou Sleazy. La G4B est un clan réunissant les meilleurs builders de France. J'ai pu m'entraîner en BF, c'est un build fight, un combat de construction avec Series, les Torque e-sport ou un... On a traîné quelques méta comme le pompe d'eagle. Nous avons fait des simulations de fin de zone. J'ai effectué des scrims avec les torques. Mes qualités sont que je m'adapte assez vite au gameplay de mes coéquipiers. Mon niveau de build et mon aim sont un point fort. Et mes défauts sont que je m'énerve vite contre les débutants du jeu. Et les lags m'énervent assez souvent. Mon palmarès, au tournoi des vacances d'hiver, Fortnite a organisé un tournoi où j'ai pu effectuer avec un coéquipier 155 points, dont 10 victoires. Les snipes FFR, j'ai participé à plusieurs scrims. J'ai à mon actif 4 victoires, dont 2 solo squad. 6 wins Atlantis, dont 2 solo duo et 3 solo squad. FFR et Atlantis sont des Discord, c'est des serveurs pour parler avec la communauté de Fortnite. Et Atlantis, c'est une team e-sport anglaise ou américaine qui organise des tournois avec leur communauté. Et mes ambitions sont de trouver une team sérieuse que j'ai déjà pour pouvoir m'améliorer encore plus, que ce soit en squad, duo ou individuellement, participer à des scrims, snipe avec la team un peu en question et faire des perfs et se faire connecter et évoluer.
Merci David de nous avoir... expliquer donc ton expérience. Donc j'ai vu que certains invités voulaient réagir avec ce qu'il a dit.
Oui. Moi je veux bien réagir, hein, mais j'ai rien compris en fait. Moi je fais pas partie des jeux vidéo, c'est pas du tout mon monde, donc je n'ai absolument rien compris.
Je n'osais pas le dire, tu l'as dit pour moi. Moi je suis resté à Snipe, c'est pas ce que je veux dire. FFR pour moi ça veut dire Fédération Française de Rugby. Donc vous voyez où j'en suis moi, hein. À quel niveau j'en suis au niveau des jeux. C'est amusant pour moi d'entendre ça. Moi, je vois bien la passion, hein. On la ressent, sa passion, c'est bien qu'il soit passionné. Tous ces termes techniques, ça veut dire que moi je me sens complètement à part. Vraiment, je me sens écarté de ton monde. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien ton monde, hein. Mais pour moi je ne connais pas du tout. Voilà, je l'avoue, je ne connais pas du tout tous les termes que tu as employés. Pour moi, c'est vraiment comme si on me parlait programmation informatique. Je suis nul en programmation informatique, mais pour moi, c'est pareil.
Une autre langue, en fait.
Une autre langue.
Mais c'est des termes appropriés au jeu.
Chaque jeu a ses termes.
J'ai eu l'occasion donc, de jouer à Fortnite depuis la saison 2 aussi. Donc moi, effectivement, je peux comprendre tous les termes qu'il emploie. Et encore, il y en a que je ne connais pas forcément. Après, c'est sûr que bon, il parle vraiment avec de spécificités très techniques d'un niveau avancé. On peut simplifier tous les jeux pour qu'ils soient compréhensibles par la majorité. Oui. Là, forcément, ça n'a pas été fait. C'est vraiment un niveau au-dessus qui parlera donc aux recruteurs potentiels de ce jeune homme. Donc, effectivement, ce n'est pas votre monde. C'est un niveau qui n'est pas le nôtre, en fait.
Ça m'intéresse. Tu as dit recruteur. C'est ça que est-ce qu'on peut m'expliquer recruteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de l'argent en jeu?
Il peut y avoir, oui. Il peut y avoir de l'argent. C'est selon comment le joueur a un bon niveau. Ouais. Il peut être recruté donc dans des teams e-sport. Et là, il peut faire des compétitions jusqu'à gagner un peu d'argent. Selon ses victoires ou son classement.
Et toi, tu es à un niveau...
J'ai intégré une team potable. À leur niveau, on ne gagne pas d'argent. On fait juste des tournois pour avoir des perfs, s'améliorer et être recruté par d'autres teams et évoluer petit à petit.
Des performances.
Et les tournois en question, c'est des tournois locaux à ton niveau ou régionaux ou nationaux ou mondiaux?
Dans la team que je suis, en fait, il y a deux line-up. En fait, il y a la ligne pro et la ligne semi-pro. Les pros font des LAN à celles qu'ils ont effectuées là, en février à l'UN Sport. Ils ont participé, je ne sais plus quelle position ils ont fait. Mais là, il y avait un cash prize à gagner. Et sinon, la deuxième line-up font des tournages juste pour perf et s'améliorer.
Et on se rapproche des sportifs de haut niveau, le PSG et compagnie, quoi, finalement. Hein, on a des recrutements, des transferts, j'imagine.
Même les clubs de foot ont des équipes spécialisées dans le game. Merci beaucoup d'avoir réagi. Donc, avant de continuer, nous allons écouter quelques interviews de lycéens.
Pour moi, les jeux vidéo, c'est un divertissement avant tout. Mais c'est quelque chose qui permet de se sortir la tête et... De jouer avec des gens qu'on aime bien et de partager ça autour d'un bon jeu, et ça fait toujours plaisir. Pas forcément numérique, ça peut être aussi un jeu de société ou peu importe.
En fait, les jeux vidéo, j'y joue quasiment jamais, mais je comprends les gens qui jouent parce que c'est un bon moyen de faire passer le temps, mais faut pas que ça devienne quelque chose de trop. Qui prenne trop de place dans la vie et qui prenne trop de temps. Mais après, quand on joue avec ses amis, ça peut devenir plutôt sympathique.
Alors que moi, je trouve que le jeu vidéo, c'est pour se divertir. C'est pour jouer avec ses amis. Et je trouve que les grands, ils comprennent pas ça, en fait. Et qu'il y a certains jeux qui sont bien.
Pour moi, les jeux vidéo, c'est juste un passe-temps. J'y joue seulement quand, par exemple, je peux pas sortir ou je peux pas aller avec des amis dans le village. Ou vraiment, c'est juste un passe-temps. C'est de temps en temps, j'en ai envie, j'y joue. Après, j'arrête, je m'en vais. Et puis, je reviens. Et puis, voilà. Après, pour moi, les jeux vidéo, c'est vraiment quelque chose pour jouer entre amis. Ça sert à rien d'y jouer vraiment tout seul. Et puis c'est vrai qu'on s'amuse deux fois plus entre amis que jouer tout seul. Et donc pour moi, c'est vraiment pour jouer avec mes amis. Voilà.
Donc moi, je joue au jeu. Genre, je suis pas non plus l'accro, mais j'y joue souvent l'après-midi parce que le soir je peux pas. Et je joue souvent à Fortnite. Un grand jeu qui a fait beaucoup de joueurs. Et c'est plus un passe-temps que. Qu'autre chose, en fait. Enfin, voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez réagir avec ce qu'ils ont dit?
On voit surtout que là, dans les interviews, c'est surtout des jeunes qui parlent de passe-temps, au final. Donc, qui jouent pas plus que ça. Après, à côté de nous, c'est pas du divertissement.
Pas la même chose.
C'est pas la même chose, non.
Vous voulez réagir avec ce qu'ils ont dit?
Donc effectivement, oui, je pense qu'il y a plusieurs manières de jouer aux jeux vidéo et il faut essayer de les confondre le moins possible. Parce que si jamais on veut y jouer juste pour se détendre, donc c'est bien, on y joue quelques fois le soir, tout va bien. Si jamais on essaye de devenir professionnel mais qu'on ne se donne pas les moyens, en fait ça va vraiment devenir une perte de temps plus qu'autre chose parce que ça va mener justement à de l'énervement, on ne va pas réussir à atteindre son but et... ça va plus frustrer et vraiment être une perte de temps qui va forcément endommager la vie de l'étudiant aux alentours.
Juste une remarque, j'ai entendu le dernier, je pense, qui disait « je joue l'après-midi un peu, bon, mais pas le soir ». Alors la question, c'est comment vous gérez ça par rapport à vos parents? Vous êtes jeune, vous passez du temps devant l'ordi, comment ça... Vous avez négocié avec vos parents, ils jouent avec vous peut-être, je ne sais pas, mais pourquoi pas, ils sont jeunes. Comment vous le gérez ça?
Alors, à ce niveau-là, en fait, les parents, ça peut être compliqué en fonction de leur approche, vu que souvent, ils ont une génération de décalage ou deux, et que du coup, le jeu vidéo, c'est quelque chose quand même de globalement nouveau, en termes de prise de temps et d'investissement d'énergie et des fois d'argent. Parce que bon, on parle depuis tout à l'heure de nous de League of Legends, les intervenants d'autres de Fortnite. Alors Fortnite est un jeu qui est multiplateforme, donc sur console ou sur ordinateur. Nous, on a un jeu qui est exclusivement sur ordinateur. Le problème, c'est que pour un ordinateur, il faut un ordinateur qui vaut un certain prix. Tous les deux, on a un ordinateur qui, lui, plus vers les 2000 euros, un peu moins, moi, c'est au-delà des 2000 euros. Pour notre jeu, c'est pas forcément nécessaire, mais pour les autres jeux auxquels on joue, pour plus se divertir, parce que notre jeu de prédilection est quand même vachement orienté sur beaucoup de travail, beaucoup de performance, et plus trop sur du divertissement à notre niveau. Et du coup, les parents peuvent avoir du mal à comprendre. Après, ceci dit, les joueurs professionnels actuels de tous les jeux sont des jeunes entre 16 et 25 ans. Donc, c'est-à-dire qu'au début des jeux vidéo, ça a été forcément accepté par leurs parents. Et c'est des parents qui ont pris le risque de. C'est comme à peu près tout. Ça peut être comme la médecine pour les études. C'est un choix de vie de la personne et les parents qui le suivent. Donc, c'est du soutien. Après, donc, comme le disait le jeune qui a témoigné, c'est pas toujours simple de pouvoir jouer quand les parents ne sont pas trop d'accord. Parce que ça peut influencer. Dans le mauvais sens, les études, même dans un très mauvais sens, puisque ça prend beaucoup de temps.
Donc, pour rappeler, nous sommes toujours à Saint-Pierre, à Tarbes, dans l'émission des jeux vidéo. Et pour continuer, je vais donner la parole à Mathieu qui va nous parler des vintage.
Bonsoir, donc, je vais vous parler des premiers jeux vidéo. Donc, le premier jeu vidéo a été inventé dans un laboratoire de recherche atomique. C'était un jeu de tennis qui s'appelait Tennis for Two, qui était sur un ordinateur analogique couplé à un oscilloscope. Au départ, l'ordinateur servait à calculer les trajectoires de missiles nucléaires. Le principe est très simple, une ligne horizontale sur laquelle un point rebondit. C'est en 1971 que voit le jour le premier jeu utilisant un ordinateur PDP-1 et un programme Space War. Le jeu initialement développé dans un laboratoire du MIT en 1961 a donné naissance à la première borne d'arcade, basée sur une machine informatique et non plus mécanique. Le principe de ce jeu est encore plus simple, deux vaisseaux doivent échapper à l'attraction d'une planète. Maintenant, je vais vous parler de Pong, qui a été commercialisé en 1972, et l'un des emblématiques jeux de borne d'arcade. C'est Nolan Bushnell, l'un des fondateurs d'Atari Incorporated, qui souhaitait créer sous la forme d'un jeu vidéo ludique l'exercice du ping-pong. L'écran est divisé en deux parties sur un fond noir, deux raquettes blanches sous forme de rectangle se renvoient une balle. Ce n'est qu'en 1973 que les couleurs s'invitent timidement sur les bandes d'arcade, que très peu de couleurs. C'est en 1979 que le premier jeu utilisant des sprites multicolores est apparu. Son nom est Galaxian, le joueur dirige un vaisseau qui est assailli par des vaisseaux ennemis. Nous pouvons parler de Pac-Man aussi, qui illustre bien le jeu en couleurs. C'est lui aussi un jeu d'arcade créé par Toru Iwatani et développé par l'éditeur japonais Namco. Ce jeu en couleurs s'adresse à un joueur qui doit diriger un petit personnage à travers un labyrinthe en évitant 4 fantômes qui le pourchassent. Shadow, Speedy, Bashful et Pokai. Un jeu très connu, Nous pouvons parler de Super Mario Bros. Sorti en 1986 et de Tetris aussi, sorti en 1989. Ils sont tous deux sortis de l'entreprise Nippon Nintendo. En entreprise, je vais parler de Nintendo, qui existe depuis 1889, qui au début... vendait des jeux de cartes. C'est qu'en 1977 que Nintendo développe ses premières consoles de jeux vidéo, TV Game 15 et TV Game 6. Nous pouvons donc finir cette rubrique avec la mise en place de la 3D dans les jeux vidéo avec Battlezone, sorti en 1980 par Atari. Le joueur contrôle un char d'assaut dans un environnement 3D minimaliste visualisé de l'intérieur de l'engin en vue subjective. Le but du jeu est de détruire le maximum d'ennemis sans être touché. Malheureusement, nous allons nous quitter en ce point, car l'univers des jeux vidéo est tellement vaste que cela pourrait finir par nous lasser. C'est pour cela que, plus tard, mon camarade vous parlera de la suite du jeu vidéo. C'est moi, je vous quitte. Bonne soirée à vous.
Bonsoir. Focus sur une pratique des jeux vidéo qui est l'e-sport. L'e-sport est des compétitions de jeux vidéo. Certains sont récompensés avec des cash prizes tout en s'inscrivant gratuitement. Le premier tournoi d'e-sport a eu lieu le 19 octobre 1972 à l'université de Stanford. Les premiers jeux d'e-sport sont des jeux d'arcade. Le plus connu de ces spectacles est StarCade. En 1980, plus de 10 000 joueurs à travers les États-Unis. L'e-sport a évolué grâce à la révolution Internet.
Aujourd'hui, les jeux qui ont percé dans l'e-sport sont les jeux suivants. League of Legends, CSGO, StarCraft, Fortnite, PUBG, Overwatch ou encore Rocket League. Il y a également des jeux de sport tels que FIFA, NHL 19, NBA 2K18. Voici les différents types de jeux qu'il peut y avoir dans l'e-sport. Les jeux de tir, par exemple Call of Duty, les jeux en multijoueur comme Fortnite, les jeux en arène, les jeux de sport comme j'ai dit tout à l'heure FIFA, les jeux de stratégie tels que League of Legends, les jeux de combat, par exemple Tekken 7 ou encore les jeux de cartes.
Maintenant nous allons écouter I Would Love to Change the World de Jetta. A tout de suite sur Radio Présence. Rebonsoir ou bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Je rappelle que nous sommes en direct du lycée Saint-Pierre à Tarbes où nous abordons le thème des jeux vidéo avec toute la classe de seconde SNA. Nous allons reprendre tout de suite avec le duo des deux Lucas qui vont nous parler des risques des jeux.
Bonsoir, nous allons vous parler des risques liés aux jeux vidéo en général.
Alors bonsoir, moi je vais citer les 6 risques principaux pour commencer. Le premier c'est le risque addictif, le deuxième le risque des modes en ligne, le troisième le risque financier, le quatrième, la violence. Le cinquième, l'addiction. Et le sixième, le manque d'activité physique. Alors pour commencer, je vais parler du premier risque, qui est le risque addictif. Alors, le risque majeur avec les jeux, en général, c'est de devenir dépendant. Ça arrive plus facilement et plus rapidement qu'on ne le croit. Et bien souvent, on ne s'en rend pas compte. L'addiction aux jeux vidéo est une addiction au même titre que toutes les autres addictions. Drogue, alcool, argent, tabac. Devenir accro a un énorme impact sur la personnalité, la santé physique et mentale, ainsi que sur les relations sociales. Il faut donc rester très prudent et avoir beaucoup de recul face aux jeux vidéo. Bon, maintenant, je vais apporter le deuxième thème, qui est les risques des modes en ligne. Comme partout sur Internet, on croise tout type de personnes. Le danger est là, si l'on est influent. Certaines plateformes de jeux fonctionnent comme des réseaux sociaux, tels que Origin, Steam, Uplay, etc. On peut vite se faire piéger. Pour exemple, il y a le harcèlement, la pédophilie qui est un très rare cas, et les insultes entre joueurs. Ensuite, je vais parler du troisième cas, qui est le cas des risques financiers. On en parle bien moins souvent, mais pourtant le risque est très présent et rejoint celui de l'addictologie. Avec la recrudescence des pay to win, littéralement payés pour gagner, on est vite tenté de dépenser des petites sommes, voire des grosses sommes, afin de progresser dans le jeu. Ce risque est évidemment accru avec les jeux gratuits. En gros, on donne le jeu gratuitement aux joueurs, mais la contrainte du jeu est qu'il faut payer pour progresser.
Alors moi, je vais continuer avec la violence dans les jeux vidéo et je continuerai ensuite avec l'addiction. Alors, beaucoup de jeux vidéo te proposent d'incarner un gangster, un pirate ou encore un démon dans le but de faire mal aux autres, de les voler, voire de les tuer. Alors, on rassure tout de suite, ce n'est pas parce que tu joues à ce type de jeu que tu es un assassin ou que tu en deviendras un. À l'heure actuelle, aucun scientifique n'a pu prouver que jouer à des jeux vidéo violents te rendait violent dans la vraie vie. Mais on a donc découvert autre chose qui est très intéressant. Lorsque tu joues souvent à ce type de jeu, tu t'habitues à la violence que tu vois, cela devient de la violence ordinaire, et ton cerveau devient de moins en moins réceptif à cela, comme si c'était normal. De plus, on a démontré que ces jeux, lorsqu'ils sont joués par des personnes n'ayant pas l'âge requis, voire norme PEGI, peuvent montrer des cas où ils vont s'exprimer plus agressivement durant les prochaines heures. Ensuite, il y a l'addiction. On parle parfois du trouble du jeu vidéo ou de l'usage problématique du jeu vidéo. Sans entrer dans les détails, ces trois termes se rapportent au fait qu'une personne perd son autonomie face à un produit, comme la drogue, ou un comportement, les jeux d'argent, jeux vidéo, Internet. Lorsque cela arrive, la personne perd sa liberté de choix. Elle ne peut plus imaginer sans vie, sans la substance ou le comportement incriminé. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'on ne tombe pas dans la consommation ou le comportement problématique par hasard. À l'origine, il y a une souffrance, un mal-être qui a pu être dans un premier temps soulagé par la consommation de drogue ou de jeux vidéo. Les spécialistes du domaine sont par exemple souvent confrontés à des jeunes en situation de phobie scolaire, c'est-à-dire que pour plusieurs raisons qui peuvent varier, comme être victime de harcèlement scolaire sans pouvoir en parler, ces personnes désinvestissent l'école pour surinvestir les jeux vidéo afin de soulager leur souffrance.
Alors moi, je vais finir avec le dernier risque, qui est le sixième, le manque d'activité physique. L'activité physique est indispensable pour être en bonne santé. Depuis une cinquantaine d'années, nous avons accès à beaucoup de technologies qui nous facilitent la vie, mais qui nous créent de problèmes de santé. Tu veux des exemples? Le téléphone portable, il nous rend mou et flemmard et nous empêche de bouger.
Merci beaucoup à Lucas et Lucas. Je vais me tourner vers vous, Madame Gauthier. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit?
Complètement. Complètement, parce que moi, je me retrouve face à des élèves, alors que ce soit au collège ou au lycée, qui, on est bien d'accord, ne sont pas des gamers ou des pros. Hein. Du coup, on a des jeunes qui se retrouvent à jouer le soir en rentrant de l'école, en rentrant du collège ou du lycée, à jouer relativement tard si les parents rentrent tard. On a des élèves qui n'en dorment plus la nuit, qui par la suite, en cours, sont fatigués, manque de concentration, décrochage scolaire au bout d'un moment. On a des jeunes qui s'isolent parce qu'ils préfèrent jouer alors en ligne ou face à leur ordinateur, leur télé ou peu importe. Oui, on rejoint aussi tout ce qui est au niveau hygiène, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, avec des élèves qui ont un manque d'hygiène certain parce qu'ils passent leur temps devant leurs écrans alors que certains dorment, enfin passent leur temps, leur nuit devant leur écran et viennent au collège ou au lycée en suivant, donc ne passent pas par la case salle de bain. Donc là, ça peut poser problème. Voilà, les problèmes de surpoids, d'alimentation, de mauvaise hygiène alimentaire, oui, parce qu'ils restent la plupart du temps assis, couchés. Ils mangent ce qui leur tombe sous la main et puis voilà. Donc ça pose problème. Et donc je rejoins totalement parce que voilà, on tombe dans une addiction et puis voilà. Alors là,
On comprend pourquoi les parents ne soutiennent pas forcément aussi les jeux vidéo, désolé, mais voilà. Et moi, je me place en tant que maman et je ne soutiendrai pas les jeux vidéo pour mes enfants.
D'accord, merci. Vous voulez réagir avec ce qu'elle a dit ?
Oui, je pense que le rôle des parents autour des jeux vidéo pour les enfants, c'est notamment l'encadrement surtout. C'est-à-dire que, effectivement, si le jeune ne sait pas comment jouer aux jeux vidéo sans devenir addict ou sans avoir des problèmes d'hygiène, de poids, de nourriture, parce qu'effectivement, il y en a qui parfois oublient carrément de se nourrir à cause des jeux vidéo, ça peut être terrible. Je pense que le rôle des parents dans tout ça, c'est notamment de les encadrer et de les forcer à suivre une activité physique pour... bon, on ne peut pas vraiment dire que ça les sortir de leur addiction, mais en tout cas, ça va les aider psychologiquement et ça va les habituer à ne pas tomber dans ce schéma justement d'autodestruction à cause des jeux vidéo.
Après, il faut faire attention parce que moi, la semaine dernière, j'ai quand même eu la réponse de « je suis sortie de ma dépression grâce aux jeux vidéo ». Donc, je pense que... faut y faire attention aussi. Et après, oui, d'accord, le rôle des parents, c'est de limiter les dégâts et de donner des limites aux enfants. Mais il y a de plus en plus de parents qui travaillent tard. Il y a de plus en plus de parents qui rentrent très tard le soir. Si les jeunes se retrouvent seuls à la maison, en fait, il n'y a personne qui leur dit d'arrêter, quoi. Donc là, ça pose problème. Au collège et au lycée, ça pose problème.
Je vous écoute, c'est très intéressant. Pour moi, je me remets aussi à ma position de parent. Mes enfants sont grands, mais ils ont vécu. On a entendu Game Boy, on a entendu Tetris et compagnie. Bon, ça me rappelle plein de choses. J'ai joué, moi aussi, largement, hein, à tout ça. À cette époque-là, j'ai le sentiment de jouer avec mes enfants. Ça restait convivial parce que je jouais avec eux. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un décalage parce que bah, on vieillit, eux ils restent jeunes quand même s'ils vieillissent aussi. Mais il y a un décalage, c'est-à-dire qu'on participe plus avec eux à ces jeux-là. Et je crois que c'est ça le piège des parents. Limiter, c'est facile à dire, c'est difficile à faire à mon avis. Sauf si on arrive à être avec les enfants, à jouer avec. Voilà, comme on va jouer au foot dehors à un moment donné. On joue avec, et là, c'est plus facile de leur dire, bon, maintenant, c'est fini, voilà, on reste ensemble, on va manger ensemble, etc. Dans cette proportion-là, je crois que c'est assez facile de limiter, entre guillemets, parce qu'on le fait ensemble. Mais à partir d'un moment où on n'est plus avec vous, parce que vous avez passé un stade de jeu, on ne peut plus suivre, enfin, moi, en tout cas, je ne pouvais plus suivre, c'est là que le fossé se creuse pour moi. Et là, on n'est plus avec eux, on est plus dans la partie répressive. On dit, arrête-toi, puis... c'est ce que c'est, quoi. Mais vous le savez mieux que moi. Quand c'est parti, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, l'addiction, on se rend même plus compte. J'en vois des étudiants, je l'ai dit au début, là, des étudiants qu'on suit parce qu'on a cette problématique-là. Quelquefois, ils savent même plus le nombre d'heures qu'ils ont joué parce qu'ils sont plus conscients de ça. Et quand je disais 3 heures du matin, des fois c'est toute la nuit, ils viennent en cours, on imagine, quand ils viennent en cours. C'est des extrêmes qui sont nuisibles, quoi. Hein, et là, rôle de parent, c'est difficile, quoi. Hein, c'est difficile à partir d'un certain degré où on n'est plus avec ces jeux et avec les jeunes. On n'est plus dans l'esprit convivial.
D'accord. J'ai une question, d'ailleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est un hikikomori ?
Il me semble que c'est les enfants au Japon qui sont complètement isolés pour jouer aux jeux vidéo, non ?
Ouais, c'est ça. Eh bien, un hikikomori, c'est un mot japonais désignant quelqu'un qui est coupé du monde, asocial, qui ne sort pas de sa chambre et passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Donc qui est en manque d'hygiène et manque de tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment dans des cas très graves, quoi. Est-ce que pour vous, vous pensez que les jeux vidéo, c'est un art ?
Ah oui, si on aborde ce côté-là, oui, moi je suis un peu espanté par... j'ai cité le tournoi FIFA, bon, c'est à mon niveau FIFA. Hein. Oui, la réalité, les progrès en tout cas... De cette réalité virtuelle, c'est bluffant, quoi. C'est quelque chose de spectaculaire, je trouve.
Oui, effectivement, moi je pense qu'on peut parler d'art, notamment la direction artistique que prennent les jeux vidéo à partir de maintenant, où ils cherchent toujours plus de réalisme, où ils en vont même à prendre des acteurs maintenant pour jouer les personnages. C'est vraiment quelque chose qui évolue très rapidement et qui, à fur et à mesure que ça avance, ça rejoint de plus en plus le cinéma. On retrouve notamment des jeux... qui font effectivement comme des films où le joueur interagit sur l'histoire. Et ça, effectivement, donc, si les films sont un art, je pense que les jeux vidéo se rapprochent de plus en plus d'un art au fur et à mesure.
Oh, Madame Gauthier a un petit doute, mais bon, je ne sais pas.
Oui, moi j'ai un doute. Mais bon, après...
Ouais. J'ai une autre question aussi, c'est vous pensez que le futur des jeux vidéo, ça va donner quoi ?
Alors, le futur des jeux vidéo, alors, c'est très vaste. C'est très très vaste, notamment avec la réalité virtuelle, donc la VR qui est très très comment dire, en voie de développement ces derniers temps et qui va l'être encore plus prochainement. Les technologies se multiplient, s'améliorent et surtout ciblent les techniques à utiliser pour bien réaliser la réalité virtuelle. Donc les jeux vidéo dans cette optique vont évoluer encore et ne s'arrêteront pas d'ici encore, je pense, 5 ou 10 ans. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose que ça évolue parce qu'il y a beaucoup de points négatifs aux jeux vidéo. Donc on a cité notamment les écrans qui font mal aux yeux. C'est pour ça que de nouveaux écrans sont créés sans lumière bleue, qui est la lumière nuisible. On a aussi les problèmes d'addiction et les problèmes de conditions physiques. Donc les conditions physiques pourraient être... on va dire partiellement réglé avec la réalité virtuelle, qui permettra à un joueur dans sa chambre de se mouvoir dans un environnement virtuel, et ce qui peut réduire un petit peu les problèmes d'hygiène de vie des gamers.
D'accord. Merci. Bah, Dylan va nous donner beaucoup plus d'infos là-dessus.
Merci beaucoup Romain pour cette transition. De la création de Pong au fameux Red Dead Redemption, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Comment ça s'est passé ? Google se lance dans le jeu vidéo. Les jeux vidéo sont si importants que même l'énorme firme Google se lance dans le milieu jeux vidéo ludique, et plus précisément des consoles avec sa propre console, d'abord connue sous le nom de Projet Yeti, la petite métallurgie, ce n'est pas le nom officiel, fait son entrée dans la petite famille des consoles. Dominée par Sony, suivie de Microsoft qui est en pente descendante en ce moment, et de Nintendo qui grimpe en gardant ses anciens joueurs et en ramenant de nouveau avec sa console semi-portable la Switch. Tout ça présenté dans leur propre conférence sur le jeu vidéo et avec le projet Stream qui peut être comparé à l'ordinateur du futur, le Shadow, qui se connecte à des serveurs. Donc pas besoin d'une machine surpuissante vu que l'ordinateur, la console en l'occurrence, va se connecter pour utiliser les serveurs de Google et ne pas avoir besoin d'une énorme puissance de frappe vu qu'il sera directement relié par Internet à un serveur. Seule la qualité de la connexion Internet et surtout de la latence seront importantes. L'immersion dans le jeu vidéo. Les jeux vidéo ont un truc en plus que les autres arts en général, c'est l'interactivité. Et en tant que bon petit geek, j'aimerais bien interagir avec mon environnement, que tout soit interactif et manipulable. Avec la réalité augmentée, c'est possible. Au revoir les manettes et l'écran, et ça, en superposant une image virtuelle sur une image qui, elle, est bien réelle. Certaines de ces technologies existent déjà, mais nous n'en sommes qu'aux prémices de cette technologie aussi amusante que spectaculaire. C'est sûrement un des futurs prometteurs du jeu vidéo, même si démenti par certains. Il y a aussi la réalité virtuelle, à ne pas confondre avec la réalité augmentée citée ci-avant. Cette fois-ci, les images virtuelles ne sont pas superposées sur des images réelles, mais là, tout est virtuel et vous êtes plongé directement dans un monde 100% virtuel grâce à des sortes de grosses, de très grosses lunettes branchées à votre console ou à votre PC et un monde à 360 degrés entièrement modélisé par ces chers codeurs qu'on embrasse fort. Il y a aussi des technologies qui arriveront bien plus tard, mais qu'il ne faut pas non plus écarter comme de genre de lentilles qui serviraient d'écran, contrôler des jeux par la pensée, ou même être complètement immergé dans un jeu à l'aide d'un casque qu'on enfile ou qu'on nous met dans une genre de simulation à la Matrix. Le jeu qui a secoué toute cette année, Red Dead Redemption 2. Comment parler du jeu vidéo cette année sans évoquer Red Dead Redemption 2 qui a eu un joli 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, qui a été voté comme le jeu de l'année. Son open world, ou monde en vert, est si riche avec tant d'interactions que des compilations existent sur YouTube avec des passages complètement fous, comme par exemple quelqu'un qui tire totalement au hasard en l'air et tue un pigeon qui était passé au même moment à plusieurs dizaines de mètres. Le nombre de choses qui se passent en même temps dans ce jeu est du jamais vu. On a attendu 15 ans pour la suite de Red Dead Redemption 1 et personne n'a été déçu. Les jeux vidéo, quels sont leurs avenirs ? Les jeux vidéo ont un avenir sûrement radieux avec la tonne de nouveaux jeux AAA, des jeux faits par de gros studios, qui sortent. Et avec les chiffres qui ne font que grimper, le jeu vidéo est très loin de mourir. Au contraire même, il ne fait que se réinventer d'année en année.
Merci beaucoup Dylan. C'était ce que vous pensiez ?
Oui, effectivement, la recherche d'interactivité qu'il a évoquée, c'est effectivement quelque chose que tous les joueurs recherchent. C'est-à-dire qu'ils cherchent à avoir un impact dans l'environnement qu'ils n'ont peut-être pas dans leur vraie vie. Ensuite, pour ce qui est des futurs jeux AAA qui vont sortir, Donc Red Dead Redemption a été cité, c'est effectivement un jeu qui nécessite des machines très puissantes, tellement de choses se passent en même temps, et tellement l'univers graphique a été travaillé, et bon, pas forcément toujours optimisé, mais toutes ces choses font que, en fait, le monde du jeu vidéo va évoluer avec le monde des machines. Si jamais l'un arrête d'évoluer, ça va poser un énorme problème, et je pense que c'est surtout ça qui va se passer au bout d'un moment.
Moi j'aimerais rajouter une chose concernant donc le projet Shadow que tu as évoqué. Alors nous on a eu l'occasion de le tester avec Richard au Meltdown de notre ville, donc Pau. Donc Meltdown c'est une chaîne de bars gaming qui ont ouvert dans toute la France et du coup qui propose des ordinateurs à disposition avec le moment de convivialité de tous les joueurs dans le bar, des jeux de société éventuellement aussi. Et nous on a eu l'occasion du coup de tester les Shadow. C'est très bien, c'est une très bonne solution comme tu l'as souligné. Le problème c'est ça vient pas des shadows, ça vient pas de la technologie, ça vient des installations actuelles. Donc comme vous le savez tous, la fibre est en plein développement dans tous les territoires mondiaux, on va dire pour les pays les plus développés surtout. Mais pour le moment, les installations sont vieilles et bancales, et c'est ça qui pose le plus de problèmes pour des shadows, notamment, vu que ça ne dépend pas uniquement de l'abonnement que vous payez chez Orange ou chez Free, ça va plutôt dépendre des câbles par lesquels vont passer donc du coup vos connexions. Et du coup, Shadow étant une bonne solution, mais pour le moment pas assez viable.
Merci. Bon, bah, je n'étais pas au courant, mais apparemment, nous avons un reportage de lycéens préparé par les secondes CNB, donc on peut la mettre.
Bonjour, dans ce flash info du lycée Saint-Pierre, nous allons vous présenter plusieurs activités menées cette année en seconde. Parler de notre actualité, à savoir...
Le stage professionnel qui approche et des extraits d'entretien. Pour commencer les activités...
Au cours des derniers mois, les élèves de second système numérique du lycée Saint-Pierre ont fait la rencontre de plusieurs associations. ELA, UNADEV et l'Oiseau Bleu. Grâce à ces rencontres, les élèves ont pu réaliser un travail journalistique pour le compte des associations et sensibiliser
les enfants qui ont couru pour ELA. Les élèves ont aussi été sensibilisés au harcèlement scolaire et à l'identité numérique par leurs professeurs.
Maintenant, on vous présente les actualités du lycée Saint-Pierre, à savoir les choix d'orientation et l'approche des stages. Avant tout, on va vous présenter les spécialités de la filière SN, qui propose...
Une filière ARED et RISC. ARED correspond à l'audiovisuel, réseau et équipement domestique. RISC, réseau informatique et système communicant. RISC, c'est une option qui couvre des domaines professionnels, des télécommunications et réseaux, et des électroniques.
C'est pour ça, donc, que moi j'ai choisi RISC.
Alors que moi, j'ai choisi ARED.
Mais reprenons, c'est important l'orientation. Faire rapidement le choix, car sinon on n'a pas forcément le choix de son entreprise. Nous pouvons changer si cela ne nous plaît pas. Le stage dure un mois environ, le premier contact avec le monde du travail. Certaines entreprises peuvent rémunérer les périodes de stage, ça en fait rêver certains.
Merci aux secondes SNB de nous avoir fait ce reportage. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Radio Présence de nous avoir autorisé à faire cette émission. Merci aussi à Madame Aline Gauthier, Monsieur Fonbon, Monsieur Jérôme Rodriguez aussi, et Monsieur Gallet d'avoir été avec nous. Merci à nos professeurs de nous avoir accompagnés. Merci à tous et bonne soirée.